Podcast, série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 35, le réseau Vilnius. Réseau pédocriminel de notables en Lituanie. L'affaire Daimantele Kedis refait surface. Un scandale pédophile en Lituanie, marqué par une série de morts mystérieuses, se propage jusqu'aux États-Unis. Là-bas, l'ancienne juge Neringa Vankien a été arrêtée début février 2018. Elle a joué un rôle clé en portant à l'attention du public l'affaire dans laquelle plusieurs hauts fonctionnaires lituaniens auraient été impliqués. Les autorités lituaniennes veulent-elles empêcher la révélation d'un clan pédophile avec leur demande discutable d'extradition de la juge? Retour sur cette affaire. En 2009, Daimantele avait 4 ans et racontait à son papa comment sa maman, dont il était séparé, l'amenait voir, je cite, des personnes appelées Andrius, Jonas et Edas. Fin de citation. Là, elles se déshabillaient toutes les deux, la maman gardant ses sous-vêtements. Des fois, elle était laissée seule à l'hôtel avec eux. Dans la vidéo, donc, que vous pouvez voir sur l'article du site, elle raconte notamment à son papa comment ces messieurs mettaient leur sexe, je cite, un peu partout, et que sa maman lui demandait d'oublier ce qui venait de se passer. Son père, Drasius Kedis, accusa son ex-femme, Laima Stankounaïté, d'avoir ainsi touché 1000 euros par passe en prostituant leur fille tous les week-ends. Ces violeurs, point d'interrogation? Eh bien, un juge et deux magistrats. Saisie en 2009, la justice lituanienne s'est finalement retournée contre Drasius Kedis, accusé de calomnie, évidemment. Il avait alors envoyé à de nombreuses personnalités politiques et journalistes une autre vidéo qu'il avait aussi publiée sur Internet afin de dénoncer le scandale. Quelques mois plus tard, le juge était assassiné. Et Drasius Kedis disparaissait, donc le juge qui était accusé par Drasius Kedis d'avoir violé sa fille. Le corps de Drasius Kedis fut finalement retrouvé en avril 2010. Le procureur a estimé qu'il serait mort, ivre, mais sa famille et de nombreux Lituaniens sont persuadés, au vu des blessures relevées sur son cadavre et de la tournure politico-judiciaire prise par cette affaire, qu'il aurait en fait été torturé et assassiné. Aujourd'hui, 2012, Daimantele a 7 ans et vit chez sa tante. La justice lituanienne a décidé de redonner la garde de la fillette à... Ah bah sa maman, hein. Dans les vidéos qui suivent, mises en ligne fin mars, on voit un imposant service d'ordre et des policiers masqués venir chez Daimantele. Mais la fille se débat et crie. Elle a trop peur de retourner chez celle qu'elle accuse de l'avoir vendue à des pédophiles. La tentative de récupération a échoué. De nombreux Lituaniens campent en effet 24 heures sur 24 autour de la maison de Daimantele où Daimantele s'est réfugié, afin d'empêcher la police de la rendre à sa maman, qui aurait reçu de nombreuses menaces de mort, qui accuse sa fille d'être victime d'un lavage de cerveau, et que la justice lituanienne aurait prévu d'expatrier lorsqu'elle aura récupéré Daimantele afin de les protéger. Les manifestants qui campaient 24 heures sur 24 autour de la maison, où avait trouvé le refuge la petite fille, qui avait accusé sa maman de la prostituée, n'ont finalement pas pu, dans une deuxième tentative, réussir à empêcher des dizaines de policiers anti-émeute de venir l'exfiltrer de force et contre sa volonté pour la rendre à sa maman. Alors juste une petite parenthèse, puisqu'on voit que ce schéma se répète dans de nombreuses affaires, et souvent on va dire, bah ouais, mais les antipédos, en fait, vous êtes des féministes, hystériques, blablabla. Bon là, vous voyez que le schéma est exactement le même. Et ça ne change absolument rien que ça soit effectivement pour une fois la mère en fait qui soit accusée de prostituer son enfant et d'être dans un réseau pédophile, ou du moins d'être utilisée par ce réseau, et que ça soit le père qui soit protecteur. Alors effectivement, la plupart du temps, vu qu'il y a 98% d'hommes pédophiles sur des fillettes, effectivement, on a plutôt tendance à être dans ce sens-là. C'est plutôt la maman qui est protectrice et qui doit se débrouiller. Pour prendre entre guillemets les armes toutes seules judiciaires ou autres pour faire face et faire entendre la parole de ses enfants. Mais vous voyez, dans ce cas-là, c'est inversé, ça ne change absolument rien, évidemment. Reprenons. Daimante Kedit avait 5 ans lorsqu'elle raconta à son papa comment sa maman, dont elle était séparée, l'emmenait tous les week-ends voir ces messieurs qui mettaient donc leur sexe un peu tout partout. Mais la justice lituanienne refusa d'interroger des suspects, préférant accuser le père donc d'avoir rendu public sur le net cette sordide affaire et donc l'accuser de diffamation et de calomnie. Dans une autre vidéo datée du 17 mai 2012, on voit donc plusieurs dizaines de policiers expulser un par un les manifestants faisant le piquet de grève autour de la maison afin d'empêcher la police de venir embarquer l'enfant. D'autres partent les yeux embués par les gaz lacrymogènes dont ils ont été aspergés. Un escadron de policiers anti-émeute, en tenue de Robocop, arrive ensuite en renfort afin de repousser les manifestants expulsés et de faciliter l'extraction de ceux qui protègent encore la maison et donc l'enfant. Donc là, on peut quand même se poser la question, enfin imaginer la scène, quoi. Donc c'est une, entre guillemets, un conflit de garde parentale, si on veut, quoi. Bon, donc c'est un, voilà, on va dire, si on prend du recul, hein, voilà, c'est l'ASE, voilà, un papa qui veut pas rendre à sa maman, non-représentation d'enfant. Donc on en est, enfin, vous voyez les vidéos sur l'article, mais à des trentaines de policiers anti-émeute qui investissent une maison pour rendre un enfant. Visiblement, l'enjeu est autre. Pour le dire simplement. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de la maison, les représentants des services de protection de l'enfance, entourés de policiers, tentaient d'expliquer à la petite fille que ce n'était pas de sa faute, qu'un jour, quand elle sera adulte, elle aura le droit de décider où et avec qui habiter, mais que pour le moment, elle devait retourner vivre avec sa maman, et ce, à quoi la petite fille répondait obstinément, qu'elle voulait rester vivre chez sa tante et ses grands-parents, et qu'elle refusait de partir. Associated Press, donc une association de journalistes, rapporte que 39 personnes ont été arrêtées par la police anti-émeute et incarcérées à l'occasion de cette exfiltration. Andrius Kubilius, premier ministre lituanien, a défendu l'opération policière en expliquant que si de nombreux Lituaniens étaient opposés à cette exfiltration, les lois et la constitution de la Lituanie devaient être respectées. La vidéo de l'exfiltration ayant commencé à tourner, une manifestation s'est tenue dans la foulée à Vilnius devant la résidence de Dalia Grybauskaitė, la présidente lituanienne, qui avait plusieurs fois expliqué vouloir d'abord et avant tout défendre les intérêts de l'enfant et que tout recours à la force serait exclu. L'affaire est largement couverte par la presse lituanienne, plusieurs sites web lui sont dédiés et des dizaines de messages sur Twitter relaient l'opération, lancée par des Anonymous notamment. À qui, à l'instar des manifestants, il donne raison, effectivement, à l'enfant contre sa maman. Cette dernière avait de son côté lancé un site web pour réclamer qu'on lui rende sa fille, et un autre pour donner sa propre version des événements, et a confié à des journalistes une vidéo tournée dans la voiture avec sa fille pour montrer comment elle s'entendait bien, si quelqu'un pouvait la traduire. Comment elle s'entendait bien. On peut s'étonner de l'absence de prise en compte de la parole de l'enfant et des accusations de son père, et à contrario de la violence institutionnelle, administrative et policière avec laquelle la petite fille a finalement été rendue à sa maman. Drazius Kedis est mort à 38 ans, les bras croisés sur la poitrine, une importante coupure lui barrant le visage de la racine des cheveux à la pommette, le corps couvert de bleu et avec des traces visibles de strangulation. Les autorités lituaniennes pensaient enterrer en secret cet homme d'affaires, érigé en héros, le 9 octobre 2009, pour avoir abattu sa belle-sœur et un juge à qui il reprochait d'avoir transformé sa fille et sa nièce en jouets sexuels. Donc, soi-disant. Cela n'a pas été possible parce que la sœur de Drazius Kedis le recherchait dans toutes les morgues et l'a retrouvé dans un casier anonyme. Drazius Kedis a été retrouvé le 17 avril 2010, à seulement 30 km de chez lui. Le procureur en charge du dossier n'a curieusement relevé aucune trace de violence et conclut à une mort naturelle. Il serait mort ivre, étouffé par le contenu de son estomac qui lui serait remonté dans la gorge, selon la version officielle. Tout le peuple lituanien croit à un meurtre. Un meurtre très commode pour limiter les procédures sur les violations du droit international qui mènent les gens à des actes désespérés. Alors effectivement, dans ce genre d'affaires de conflit parental, si l'un des deux parents meurt, eh bien la garde revient automatiquement à l'autre et puis toutes les mesures, toutes les, comment dire, les litiges s'arrêtent. Donc effectivement, c'est une manière plus ou moins quand même très brutale de faire cesser le litige, on va dire. Drazius Kedis reprochait à la justice lituanienne et à des services sociaux et aux 10 organismes de protection de l'enfance d'avoir nié la situation de danger pour sa fille de 4 ans durant plus d'une année. Il avait donc publié le tout sur Internet et sa fille, notamment des témoignages qui expliquaient en détail la manière dont sa mère lui louait à des personnalités locales, dont un juge, en lui disant de leur demander plus de sexe. L'enfant a accusé sa maternelle, donc sa mère, de complicité et de louer sa propre fille aussi, donc sa grand-mère maternelle, pardon. Les violations graves et persistantes des droits fondamentaux de ces enfants, conjoints et meurtres spectaculaires, avaient suscité des manifestations dans toute la Lituanie suite à cela. La nouvelle a largement été censurée dans les pays qui font usage de ces pratiques pour maintenir la stabilité de leur gouvernement. 5 000 personnes sont venues rendre un dernier hommage à Drasius Kedys le 24 avril lors de son enterrement. La presse francophone n'a parlé de vieux dossiers de curé que de vieux dossiers de curés pédophiles, donc notamment en ce moment-là. La fameuse commission Sauvé, ce qui est très bien, mais faisons une commission Sauvé dans l'éducation nationale, par exemple. Voyons un petit peu comment ça marche dans d'autres domaines. Évidemment, vous vous doutez bien que les pédophiles sont toujours autour des enfants et pas que dans les églises. Donc, pour mieux cacher évidemment le sujet brûlant. Le 26 avril, la Fondation Princesse de Croix et Massimo Lancelotti présentaient en effet une pétition sur ces pratiques qui ont été opérées à travers l'Union européenne dans le cadre de 88 539 dossiers connexes au réseau pédocriminel de Zandvoort, par exemple. La pétition a été maintenue ouverte, mais cela n'a pas gêné la justice lituanienne pour attribuer une virginité virtuelle à la mère Macrel. Un tribunal a ordonné que Diamantele soit enlevée de force et d'urgence à ses grands-parents, chez qui elle était pour le temps de l'hospitalisation de sa tante paternelle, qui en avait la garde, pour la rendre à la mère. Il s'agit une fois de plus d'une violation grave des lois internationales qui interdisent de confier un enfant à un parent présumé abuseur. Aucun tribunal n'était supposé considérer rendre Diamantele à sa mère avant l'échéance du recours de la Cour européenne des droits de l'homme. Des centaines de personnes se sont rassemblées autour de la maison de la mère pour protéger l'enfant. Tous les jours, un tribunal interdit les contacts d'un de ses enfants avec ceux susceptibles de leur faire comprendre ce qui est arrivé n'était pas normal. Comment la justice lituanienne étouffe une affaire de réseau pédophile impliquant du gratin? Donc retour sur une affaire de pédophilie, donc cette fois en Lituanie. Donc c'est juste une seconde présentation de l'affaire avec quelques faits qui sont détaillés par une autre auteure. À l'origine, donc, on a un divorce, puis une fillette de 5 ans qui parle à son père des viols commis par des amis de sa mère et de sa tante. Un père qui tente de sortir sa fille de ce réseau et qui finit assassiné, une mobilisation populaire impressionnante, et aujourd'hui, la justice lituanienne continue à persécuter les personnes qui ont essayé d'agir. D'une affaire de réseau pédophile au conflit parental, en 2008, plusieurs années après la séparation de Drasius Kedys et de la mère, la petite de 5 ans explique à son père que sa mère l'emmène voir des messieurs qu'il a des amis et mettent leur sexe tout partout. Elle décrit avec ses mots d'enfant les actes qui lui font subir, notamment des fellations, et désigne même plusieurs personnes, dont un juge et un homme politique, des messieurs donc appelés Andrius, Jonas et Edas. Elle a dit que cela se passait chez sa mère, ou bien dans des hôtels, ou encore au domicile des types, et qu'il remettait de l'argent à la maman. Le père porte plainte en novembre 2008 contre la mère et contre le juge, mais évidemment, il n'y a pour ainsi dire pas d'enquête et les dossiers sont classés. C'est là qu'il diffuse donc les vidéos sur le web de sa fille qui raconte et qui mime ce qu'il se passe pour que chacun puisse juger par lui-même. Il en appelle à l'opinion publique. Selon Kedys, la mère touchait 1 000 euros par passe de sa fille. La justice s'en prend alors à lui pour calomnie. C'est vraiment un truc classique et habituel, c'est-à-dire que c'est souvent le parent qui dénonce, qui se retrouve au tribunal pour diffamation et calomnie, et il faut d'abord s'en sortir avec ça pour peut-être arriver un jour à avoir une action en justice pour les faits. En gros, on l'a accusé d'avoir inventé tout cela dans le cadre d'un conflit parental. Donc un soi-disant syndrome d'aliénation parentale, mais cette fois-ci retourné, utilisé contre le père, puisque c'est lui qui protège, comme quoi ce n'est pas du tout quelque chose de féministe, puisque c'est utilisé contre le protecteur, que ce soit le père ou la mère. En octobre 2009, la juge désignée par la petite, donc Jonas Furmanavicius, est retrouvée assassinée devant chez lui, en pleine rue. 3 balles dans l'estomac, une dans la tête. Donc c'est plutôt la signature d'un contrat passé avec le milieu. Drasius Kedys disparaît exactement en même temps. Les médias et les autorités ont tenté de laisser penser que ce juge s'était fait liquider parce qu'il était intègre et travaillait sur des dossiers chauds. Le même jour, la tante maternelle de la petite, Violeta Naroussevicienne, qu'elle avait désignée comme responsable des faits au même titre que sa mère, et qu'elle aurait fait le lien entre son ex et le réseau, et qui exploitait sa propre fille aussi, est également retrouvée assassinée par balle. Cette femme était stripteaseuse et son conjoint était un repris de justice condamné 14 fois. Détail croustillant, un Beretta enregistré au nom de Kedys aurait été retrouvé près de son corps. Évidemment, Kedys est officiellement soupçonné d'avoir commis ces assassinats, et peut-être même avec des complices. Mais il est permis d'en douter, tant ces deux morts subites arrangent le réseau pédophile au meilleur moment en préservant l'omerta. En effet, les petites mains impliquées meurent. Au même moment, le père disparaît également et on lui fait porter le chapeau. Un classique. En tout cas, il est condamné pour ces deux homicides. Les médias officiels étaient à l'unisson dans la diffusion de fausses informations, parfois carrément diffamatoires, pour détourner l'attention du fond de l'affaire, c'est-à-dire le réseau de VIP. Quelques mois plus tard, Andrius Usas, un autre type dénoncé par Cadis, est mort noyé dans 20 cm d'eau à la suite d'une sortie de route de son 4x4. La bonne blague, ça rappelle le ministre Boulin. Il était le seul à avoir été vaguement poursuivi par la justice, mais la procédure a été stoppée net avec sa mort. Usas, patron d'entreprise et assistant du président du Parlement Victoras Muntianas, avait été recommandé par quelqu'un des services sociaux à la maire de Diamantele. C'était en 2006 qu'elle avait cherché à obtenir la garde complète de sa fille, et Usas l'avait assistée devant les tribunaux, l'aidant ainsi à gagner sa procédure. À cette époque, elle disait à sa fille qu'elle ne reverrait plus son père et qu'elle finirait par l'oublier. La sœur de Kedis, Neringa Venken, a cherché son frère dans toutes les morgues du pays et elle a fini par le retrouver en avril 2010 dans un casier anonyme. Le corps et le visage de Kedis portaient des marques de coups et de strangulation, mais la version officielle déclare qu'il s'agit d'une mort naturelle parce qu'il avait trop bu et se serait étouffé dans son vomi. À côté de lui, on aurait retrouvé l'arme qui a justement servi à tuer le juge, comme c'est pratique. À son enterrement, plus de 5000 personnes étaient présentes. La semaine suivante, un ami de Kedis, Albert Tazidius, rentre d'une année et demie passée en Grèce et est immédiatement arrêté, accusé d'avoir aidé Kedis pour les deux meurtres par balle. Ce Zidius a déclaré qu'en Grèce, il avait été violemment attaqué par un groupe d'hommes qui parlait le lituanien et dont il pense qu'il appartenait à la sécurité nationale du pays. Acharnement contre la victime et ceux qui ont dénoncé l'affaire. La sœur de Kedis, elle-même juge, a été sanctionnée pour avoir aidé son frère à rédiger des plaintes. Mais elle parvient à garder sa nièce, avec elle, jusqu'à une décision de justice en 2012 qui l'impose d'envoyer la fillette chez sa mère. À partir de là, des citoyens ont monté la garde pendant des mois autour de la maison pour empêcher une intervention de la police. En mars 2012, des centaines de personnes se sont regroupées dans le domicile de la fillette et de sa tante pour empêcher les flics de la récupérer et de la confier à sa mère, comme la justice l'avait décidé. La vidéo de cette opération tourne encore sur le web et a choqué de nombreux citoyens. La petite a toujours répété les mêmes choses lors des 3 auditions de la police. Elle a aussi passé 4 examens psychologiques et vu au total 10 experts à la demande de la justice. Mais les résultats n'ont jamais été communiqués. Et le médecin légiste qui a autopsié son père a conclu une mort naturelle, a été chargé de l'examiner elle pour repérer les traces d'abus. Mais quand il lui a demandé de se déshabiller, elle s'est mise à hurler et a été prise de panique, si bien que l'examen a été impossible. On notera aussi qu'un dispositif de protection a été mis en place, même après la mort de Kedis, autour de la mère de l'enfant et d'un politicien et homme d'affaires qui avait été désigné par Diamantele, le dénommé Andrius Usas. Le 17 mai 2012, nouvelle mobilisation pour bloquer une nouvelle intervention de plus de 250 flics, dont un groupe de la police anti-émeute, mais cette fois donc 39 personnes sont arrêtées et la petite est littéralement arrachée à sa tente à l'intérieur de son domicile. Le Premier ministre Andrius Kubilius est même intervenu personnellement pour défendre cette intervention qui a fait jaser jusque dans les médias anglais, suisses, espagnols ou luxembourgeois. Évidemment, en France, vous n'en avez pas entendu parler. La tante Neringa Venken, donc la sœur de Kedis, juge de son état, suite à cela, a fui aux États-Unis en 2013, où elle a fondé un parti anticorruption. Donc elle a essayé de lutter finalement par l'extérieur, voyant que malgré son statut de juge, tout était complètement corrompu dans ce petit pays de l'ex-bloc URSS, passé sous une énorme domination américaine d'ailleurs depuis. En Lituanie, elle avait reçu de nombreuses menaces de mort et a décidé de quitter le pays avec son fils adolescent. Mais suite à un mandat d'arrêt international émis par la Lituanie en 2015, finalement la justice américaine vient de décider son extradition pour être jugée et elle est emprisonnée à l'heure actuelle en attendant l'histoire d'être certain qu'elle ne va pas s'enfuir. Le mandat d'arrêt lituanien mentionne seulement quelques charges minimes contre Venken, mais ses avocats pensent qu'une fois sur place, la justice lui prépare une avalanche de plaintes pour des faits graves, parmi lesquels la liquidation du juge et ancien flic Jonas Furmanavicius. Selon le journal américain Le Chicago Tribune, les avocats de Mme Venken ont fait savoir qu'ils comptaient faire appel de la décision. Le membre du Congrès américain Christopher Smith a souligné dans un rapport que 10 des 14 charges présentées par la Lituanie dans la demande d'extradition de Mme Venken avaient été rejetées par les États-Unis. Je cite « Ces charges sont de matière à dissuader ceux qui prendraient le risque de s'attaquer en justice à ceux qui exploitent sexuellement les enfants », a-t-il déclaré. Fin de citation. Neringa Venken se demande aussi si on ne va pas essayer de l'assassiner à son tour, une fois sur place. Par contre, il n'est évidemment pas à l'ordre du jour d'investiguer au sujet des accusations de Venken et de la petite Diamantele.